Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Est-ce que vous-même, vous avez souffert d'être femme ?
Non.
Simone de Beauvoir.
Jamais. C'est ce que j'explique dans mes mémoires. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup trompé. Si on a cru que Le deuxième sexe, c'était un livre de revendication, à vrai dire, je m'étais même pas soucié de ce problème jusqu'au moment où, à travers les autres femmes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai parlé, dont j'ai vu l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait un malheur proprement féminin.
Ça peut pas faire de mal.
Mais personnellement, non, parce que comme j'ai fait les études que j'ai voulu, comme j'ai pas eu de difficulté à les faire, que j'ai jamais trouvé d'hostilité parmi mes camarades, parce que quand même, des intellectuels de gauche, c'est ce qu'on peut trouver de plus ouvert et de plus libéral touchant cette relation entre hommes et femmes, j'en ai jamais souffert.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Curieuse d'autrui, je ne rêvais pas d'un sort différent du mien. En particulier, je ne déplorais pas d'être une fille. Je n'avais pas de frère. Aucune comparaison ne me révélait que certaines licences m'étaient refusées à cause de mon sexe. Je ressentis vivement mon enfance, jamais ma féminité. Dans mes jeux, mes ruminations, mes projets, je ne me suis jamais changé en homme. Toute mon imagination s'employait à anticiper mon destin de femme. Ce destin, je l'accommodais à ma manière. Méprisant les autres enfants qui s'en amusent avec incohérence, nous avions, ma sœur et moi, une façon particulière de considérer nos poupées. Elles savaient parler et raisonner. Elles vivaient dans le même temps que nous. C'étaient nos doubles. J'acceptais la discrète collaboration de ma sœur Poupette, que j'aidais impérieusement à élever ses propres enfants. Mais je refusais qu'un homme me frustrât de mes responsabilités. Nos maris imaginaires voyageaient. Dans la vie, je le savais, il en va tout autrement. Une mère de famille est toujours flanquée d'un époux. Mille tâches fastidieuses l'accablent. Quand j'évoquais mon avenir, ces servitudes me parurent si pesantes que je renonçais à avoir des enfants à moi. Ce qui m'importait, c'était de former des esprits et des âmes. Je me ferais professeur, décidai-je. Je ne concevais pas que l'avenir pût me proposer entreprise plus haute que de façonner un être humain. Je me rends compte aujourd'hui que dans ma future création, comme dans ma poupée Blondine, c'est moi que je projetais. Tel était le sens de ma vocation. Adulte, je reprendrai en main mon enfance et j'en ferai un chef-d'œuvre sans faille. Je me révèle l'absolu fondement de moi-même et ma propre apothéose. Ainsi, au présent et dans l'avenir, je me flattais de régner seul sur ma propre vie. Cette petite fille précoce au caractère et aux idées bien trempées tiendra ses promesses. Née en 1908, elle devient dans le Paris des années 50 le symbole de la femme libre, revendiquant sa place d'écrivain aux côtés des grands intellectuels d'après-guerre. C'est par ces mots audacieux en effet que se présente Simone de Beauvoir. Ce portrait d'elle, enfant, à l'âge de 8 ans, ouvre ses mémoires d'une jeune fille rangée, le premier volume de son autobiographie publié chez Gallimard en 1958.
Mon enfance, ma jeunesse, j'avais envie de les sauver. Il y a une telle différence entre une vie d'adulte et puis une vie d'enfant, d'adolescence, qu'on a l'impression un peu d'avoir enterré dans la femme qu'on est devenue, la petite fille et la jeune fille qu'on a été. Et alors c'était comme une espèce de, je sais pas, de devoir envers elle que je ressentais, de les ressusciter.
À l'époque, elle est depuis 10 ans l'une des grandes figures du féminisme. Son célèbre essai, Le deuxième sexe, publié en 1949 et traduit dans le monde entier, a immortalisé la formule qui incarnera le mouvement féministe des années 70. On ne naît pas femme, on le devient. Nous l'accompagnerons au fil des 20 premières années de sa vie, si décisives, qui l'amèneront de l'enfance à l'âge de raison, jusqu'à l'agrégation de philosophie en 1929, où elle est reçue en seconde place derrière un certain Jean-Paul Sartre. Rendons hommage donc à Simone de Beauvoir qui fait cette année enfin son entrée dans la Pléiade. Remontons le fil du temps et retrouvons la fillette qui, à l'âge de 10 ans, se trouve une autre âme sœur. Admise dès l'âge de 5 ans au cours Désir, une prestigieuse école privée de la rue Jacob, la jeune Simone de Beauvoir s'y ennuie pendant les premières années de sa scolarité, jusqu'à l'apparition d'une camarade qui va joyeusement bousculer ses habitudes. Zaza aimait comme moi les livres et l'étude. En outre, elle était dotée d'une quantité de talent qui me faisait défaut. Quelquefois, quand je sonnais rue de Varennes, je la trouvais très occupée. Elle polycopiait elle-même à une dizaine d'exemplaires une chronique familiale qu'elle rédigeait chaque semaine à l'intention des grands-mères, oncles, tantes absents de Paris. J'admirais la vivacité de ses récits. Elle prit avec moi quelques leçons de piano, mais passa très vite dans une section supérieure. Malingre, les jambes grêles, elle n'en accomplissait pas moins avec son corps mille prouesses. Sa mère, Madame Mabille, au premier jour du printemps, nous emmena toutes deux dans une banlieue fleurie. C'était, je crois, à Nanterre. Zaza fit sur l'herbe la roue, le grand écart et toute espèce de culbute. Elle grimpait aux arbres, elle se suspendait aux branches par les pieds. Dans toutes ses conduites, elle faisait preuve d'une aisance qui m'émerveillait. À 10 ans, elle circulait seule dans les rues. Au cours des irs, elle n'adopta jamais mes manières guindées. Elle parlait à ses demoiselles d'un ton poli, mais désinvolte, presque d'égal à égal. Soumise aux lois, aux poncifs, aux préjugés, j'aimais néanmoins ce qui était neuf, sincère, spontané. La vivacité et l'indépendance de Zaza me subjuguaient. Je ne m'avisais pas tout de suite de la place que cette amitié tenait dans ma vie. Je n'étais guère habile à nommer ce qui se passait en moi. Je n'examinais pas ce qui se cachait sous la convention des mots. Zaza était ma meilleure amie. Il n'y avait rien de plus à dire. Cette année-là, comme les autres années, le mois d'octobre m'apporta la joyeuse fièvre des rentrées. Les livres neufs craquaient entre les doigts, ils sentaient bon, je me grisais des promesses de l'avenir. Aucune promesse ne fut tenue. Je retrouvais dans les jardins du Luxembourg l'odeur et les rousseurs de l'automne. Elles ne me touchaient plus. Le bleu du ciel s'était terni. Les classes m'ennuyèrent, je prenais mes leçons, je faisais mes devoirs sans joie, et je poussais avec indifférence les portes du cours des Irs. Mes journées n'avaient plus de goût. Je marchais sur le boulevard Raspail à côté de maman, je me demandais soudain avec angoisse, qu'arrive-t-il? Est-ce cela la vie? N'est-ce que cela? Est-ce que cela continuera ainsi toujours? J'eus le souffle coupé. On aurait dit que sans prévenir, le monde était mort. Cette détresse non plus, je ne savais pas la nommer. Un après-midi, je me déshabillais dans le vestiaire de l'Institut quand Zaza apparut. Nous nous sommes mis à parler, à raconter, à commenter. Les mots se précipitaient sur mes lèvres et dans ma poitrine tournoyaient 1000 soleils. Dans un éblouissement de joie, je me suis dit « c'est elle qui me manquait ». Si radicale était mon ignorance des vraies aventures du cœur que je n'avais pas songé à me dire « je souffre de son absence ». Il me fallait sa présence pour réaliser le besoin que j'avais d'elle. Ce fut une évidence fulgurante. Brusquement, conventions, routines, clichés volèrent en éclats. Et je fus submergé par une émotion qui n'était prévue dans aucun code. Je me laissais soulever par cette joie qui déferlait en moi, violente et fraîche comme l'eau des cascades, nue comme un beau granit. Quelques jours plus tard, j'arrivais au cours en avance, et je regardais avec une espèce de stupeur le tabouret de Zaza. Si elle ne devait plus jamais s'y asseoir, si elle mourait, que deviendrais-je? Et de nouveau, une évidence me foudroya. Je ne peux plus vivre sans elle. C'était un peu effrayant. Elle allait, venait, loin de moi, et tout mon bonheur, mon existence même, reposait entre ses mains. Je ne réclamais pas que Zaza éprouvât à mon égard un sentiment aussi définitif. L'amour n'est pas l'envie. Je ne concevais rien de mieux au monde que d'être moi-même et d'aimer Zaza. Après l'enfance, voici les prémices de l'adolescence. À l'âge de 12 ans, de nouvelles angoisses assaillent la jeune Simone de Beauvoir. Elle se sent étrangère à son corps, à son existence, au nouveau domicile familial. Car à la même époque, son grand-père maternel, banquier d'affaires, fait faillite. Ruinée, la famille est contrainte de quitter les beaux quartiers de Montparnasse pour s'installer rue de Rennes, sous les toits. Son père, Georges de Beauvoir, est inconsolable. Faute de dot, il ne pourra pas marier ses filles et les engage à se choisir un métier. Cette période d'incertitude trouble la jeune fille qui s'interroge sur le temps qui passe, sur son avenir et sur son appartenance à la condition féminine qu'elle découvre pour la première fois. Mon corps changeait, mon existence aussi. Le passé me quittait. Déjà nous avions déménagé et notre gouvernante était partie. Je regardais avec ma sœur de vieilles photographies quand je m'avisais soudain qu'un de ces jours, j'allais également perdre le doux refuge de Mérignac. Grand-père était très âgé, il mourrait. Quand le domaine appartiendrait à mon oncle Gaston, je ne m'y sentirais plus chez moi. J'y viendrais en étrangère, puis je n'y viendrais plus. Je fus consterné. Mes parents répétaient, et leur exemple semblait confirmer, que la vie a raison des amitiés d'enfance. Est-ce que j'oublierais Zaza ? Nous nous demandions, Poupette et moi, si notre affection résisterait à l'âge. La vie n'est pas gaie, la vie n'est pas un roman, déclaraient les grandes personnes en chœur. La monotonie de l'existence adulte m'avait toujours apitoyé. Quand je me rendis compte que dans un bref délai, elle deviendrait mon lot, l'angoisse me prit. Un après-midi, j'aidais maman à faire la vaisselle. Elle lavait des assiettes, je les essuyais. Par la fenêtre, je voyais d'autres cuisines où les femmes frottaient des casseroles ou épluchaient des légumes. Chaque jour, le déjeuner, le dîner, chaque jour, la vaisselle, ces heures indéfiniment recommencées et qui mènent nulle part, vivrais-je ainsi ? Une image se forma dans ma tête avec une netteté si désolante que je me la rappelle encore aujourd'hui. Une rangée de carrés gris s'étendait jusqu'à l'horizon. C'était les jours, les semaines et les années. Moi, depuis ma naissance, je m'étais endormi chaque soir un peu plus riche que la veille. Je m'élevais de degré en degré. Mais si je ne trouvais là-haut qu'un morne plateau sans aucun but vers lequel marcher, à quoi bon ? Non, me dis-je tout en rangeant dans le placard une pile d'assiettes. Ma vie à moi conduira quelque part. Heureusement, je n'étais pas voué à un destin de ménagère. Mon père n'était pas féministe. Il admirait la sagesse des romans de Colette Hyver où l'avocate, la doctoresse finissent par sacrifier leur carrière à l'harmonie du foyer. Mais nécessité fait loi. Vous, mes petites, vous ne vous marierez pas, répétait-il souvent. Vous n'avez pas de dot, il faudra travailler. Je préférais infiniment la perspective d'un métier à celle du mariage. Elle autorisait des espoirs. Il y avait eu des gens qui avaient fait des choses. J'en ferai. Je ne prévoyais pas bien lesquels. L'astronomie, l'archéologie, tour à tour m'avaient réclamé et je continuais à caresser vaguement le dessein d'écrire, mais ces projets manquaient de consistance. Je n'y croyais pas assez pour envisager avec confiance l'avenir. J'avais perdu la sécurité de l'enfance. En échange, je n'avais rien gagné. D'avance, je portais le deuil de mon passé.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, et c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ou mes printemps, mes soleils, ou mes folles années perdues, ou mes 15 ans, ou mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou d'où j'ai tout retrouvé. Hélas, jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse. Hélas, pourquoi suis-je donc revenu et seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crie? crucifix. Elle dort à jamais, mon enfant, mon seul.
Découvrons à présent l'un des trésors d'enfance de Simone de Beauvoir, qui lui apporte réconfort et consolation. Sujette aux doutes et à l'angoisse de la mort, la jeune fille trouve refuge dans la contemplation de la nature, qui lui procure un sentiment de communion spirituelle. La voici en vacances dans le domaine familial à Mérignac, en Corrèze, près d'Uzerche. Comme chaque année, la famille partage ses loisirs entre ce château du grand-père de Beauvoir et le domaine de la Grillière, situé à une vingtaine de kilomètres, propriété d'un oncle. Cet été-là, l'apprentissage de la maturité prend des accents lyriques. « Je ne régnais plus sur le monde. » Les façades des immeubles, les regards indifférents des passants m'exilaient. C'est pourquoi mon amour pour la campagne prit des couleurs mystiques. Dès que j'arrivais à Mérignac, les murailles s'écroulaient, l'horizon reculait. Je me perdais dans l'infini tout en restant moi-même. Je sentais sur mes paupières la chaleur du soleil qui brille pour tous et qui, ici, en cet instant, ne caressait que moi. Le vent tournoyait autour des peupliers. Il venait d'ailleurs, de partout. Il bousculait l'espace et je tourbillonnais, immobile, jusqu'aux confins de la terre. Quand la lune se levait au ciel, je communiais avec les lointaines cités, les déserts, les mers, les villages qui au même moment baignaient dans sa lumière. Je n'étais plus une conscience vacante, un regard abstrait, mais l'odeur houleuse des blés noirs, l'odeur intime des bruyères, l'épaisse chaleur du midi ou le frisson du crépuscule. Je pesais lourd et pourtant je m'évaporais dans l'azur. Je n'avais plus de bornes. Mon expérience humaine était courte. Faute d'un bon éclairage et de mots appropriés, je ne saisissais pas tout. La nature me découvrait, visible, tangible, quantité de manières d'exister dont je ne m'étais jamais approché. J'admirais l'isolement superbe du chêne qui dominait le parc paysager. Je m'attristais sur la solitude en commun des brins d'herbe. J'appris les matins ingénus et la mélancolie crépusculaire, les triomphes et les déclins, les renouveaux, les agonies. Quelque chose en moi, un jour, s'accorderait avec le parfum des chèvrefeuilles. Chaque soir, j'allais m'asseoir parmi les mêmes bruyères et je regardais les ondulations bleutées du massif des Monédières. Chaque soir, le soleil se couchait derrière la même colline, mais les rouges, les roses, les carmins, les pourpres, les violets ne se répétaient jamais. Face au ciel changeant, la fidélité se distinguait de la routine, et vieillir n'était pas nécessairement se renier. Pourtant, bien plus vivement qu'à Paris, je sentais autour de moi la présence de Dieu. À Paris, les hommes et leurs échafaudages me le cachaient. Je voyais ici les herbes et les nuages tels qu'ils les avaient arrachés au chaos. Plus je collais à la terre, plus je m'approchais de lui. Et chaque promenade était un acte d'adoration. Sa souveraineté ne m'ôtait pas la mienne. Il me semblait que, d'une certaine manière, il avait besoin de mes yeux pour que les arbres aient des couleurs. Privé de ma présence, la création glissait dans un obscur sommeil. En l'éveillant, j'accomplissais le plus sacré de mes devoirs. Un soir, je m'oubliais. C'était au domaine de la Grillière. J'avais lu longtemps au bord d'un étang une histoire de saint François d'Assise. Au crépuscule, j'avais fermé le livre. Couché dans l'herbe, je regardais la lune. Elle brillait sur l'ombris mouillé par les premiers pleurs de la nuit. La douceur de cette heure me suffoquait. J'aurais voulu la saisir au vol et la fixer à jamais sur le papier avec des mots. « Il y aura d'autres heures, me disais-je, et j'apprendrai à les retenir. » Je restais cloué à la terre, les yeux rivés sur le ciel. À l'adolescence, déçue par l'enseignement catholique qu'elle a suivi au cours des Irs, Simone de Beauvoir a définitivement renié la religion.
Je me suis aperçue un beau jour, à 14 ans, à 13 ans, je ne saurais pas vous dire la date exacte, je me suis aperçue un beau jour que je ne croyais plus, que c'était fini. J'avais cru d'une manière très très ardente quand j'étais toute petite. Je croyais aux anges, au petit Jésus, etc. Puis après, j'ai moins cru tout de même à toute cette mythologie plus extérieure, mais enfin j'ai cru vraiment à Dieu, mais petit à petit j'ai épuré Dieu tellement qu'il n'avait plus aucun rapport avec ce monde, parce que Dieu ne pouvait pas être bête comme toutes les personnes pieuses que je voyais, ou comme les prêtres à qui je parlais, et à ce moment-là je me suis aperçue que bon, il n'existait plus pour moi finalement, il s'était évaporé.
Elle se tourne alors vers le modèle que représente pour elle son père. Athée, Georges de Beauvoir aime à dire qu'il n'y a pas plus beau métier que celui d'écrivain. C'est justement sur cette voie que s'engage la brillante élève. Pourquoi ai-je choisi d'écrire ? Enfant, je n'avais guère pris au sérieux mes gribouillages. Mon véritable souci avait été de connaître. Je me plaisais à rédiger mes compositions françaises, mais ces demoiselles me reprochaient mon style guindé. Je ne me sentais pas doué. Cependant, quand à 15 ans, j'inscrivis sur l'album d'une amie les prédilections, les projets qui étaient censés définir ma personnalité à la question « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?», je répondis d'un trait « Être un auteur célèbre ». Sur ce point, je n'hésitais pas. Je convoitais cet avenir à l'exclusion de tout autre. La première raison, c'est l'admiration que m'inspiraient les écrivains. Mon père les mettait bien au-dessus des savants, des érudits, des professeurs. J'étais convaincu, moi aussi, de leur suprématie. Les livres, tout le monde les lisait. Ils touchaient l'imagination, le cœur. Ils valaient à leur auteur la gloire la plus universelle et la plus intime. En tant que femme, ces sommets me paraissaient en outre accessibles. Les plus célèbres de mes sœurs s'étaient illustrées dans la littérature. Je redoutais la nuit, l'oubli. Ce que j'avais vu, senti, aimé, c'était un déchirement de l'abandonner au silence. Ému par un clair de lune, je souhaitais une plume, du papier et savoir m'en servir. J'aimais à 15 ans les correspondances, les journaux intimes qui s'efforcent de retenir le temps. J'avais compris aussi que les romans, les nouvelles, les contes ne sont pas des objets étrangers à la vie, mais qu'ils l'expriment à leur manière. Si j'avais souhaité autrefois me faire institutrice, c'est que je rêvais d'être ma propre cause et ma propre fin. Je pensais à présent que la littérature me permettrait de réaliser ce vœu. Elle m'assurerait une immortalité qui compenserait l'éternité perdue. Il n'y avait plus de Dieu pour m'aimer, mais je brûlerais dans des millions de cœurs. En écrivant une œuvre nourrie de mon histoire, je me créerais moi-même à neuf et je justifierais mon existence. En même temps, je servirais l'humanité. Oh, quel plus beau cadeau lui faire que des livres. Je m'intéressais à la fois à moi et aux autres. J'acceptais mon incarnation, mais je ne voulais pas renoncer à l'universel. Ce projet conciliait tout. Il flattait toutes les aspirations qui s'étaient développées en moi au cours de ces 15 années. Sûre d'elle, la jeune fille l'est aussi en ce qui concerne un autre mystère, l'amour. Loin des mièvreries sentimentales de son âge, la future féministe défend une conception non conformiste du mariage fondée sur l'égalité des sexes. Bousculant les conventions bourgeoises de son époque, ses réflexions annoncent la conception de l'amour nécessaire qui l'unira tout au long de sa vie au philosophe Jean-Paul Sartre. Découvrons le portrait qu'elle brosse du compagnon idéal. En ce domaine, comme dans tous les autres, j'avais soif de nécessité. Il faudrait que l'élu s'imposât à moi, comme s'était imposé Zaza, par une sorte d'évidence. Sinon, je me demanderais pourquoi lui et pas un autre. Ce doute était incompatible avec le véritable amour. J'aimerais le jour où un homme me subjuguerait par son intelligence, sa culture, son autorité. Je voulais qu'entre mari et femme, tout fût mis en commun. Chacun devrait remplir, en face de l'autre, ce rôle d'exact témoin que jadis j'avais attribué à Dieu. Je n'admettais pas qu'un des deux époux trompât l'autre. S'ils ne se convenaient plus, ils devaient se séparer. Je n'étais pas féministe dans la mesure où je ne me souciais pas de politique. Le droit de vote, je m'en fichais. Mais à mes yeux, hommes et femmes étaient au même titre des personnes et j'exigeais entre eux une exacte réciprocité. Cela excluait qu'on aimât quelqu'un de différent. Je ne me marierais que si je rencontrais, plus accompli que moi, mon pareil, mon double. Pourquoi réclamais-je qu'il me fût supérieur ? Je ne vois pas du tout que j'ai cherché en lui un succès d'année de mon père. Je tenais mon indépendance. J'exercerais un métier, j'écrirais, j'aurais une vie personnelle. Je ne m'envisageais jamais comme la compagne d'un homme. Nous serions deux compagnons. D'autre part, je pensais à moi du dedans, comme à quelqu'un en train de se faire, et j'avais l'ambition de progresser à l'infini. L'élu, je le voyais du dehors comme une personne achevée. Pour qu'il demeurât toujours à ma hauteur, je lui garantissais dès le départ des perfections qui pour moi n'existaient encore qu'en espoir. Il était d'emblée le modèle de ce que je voulais devenir, donc il l'emportait sur moi. Je prenais soin d'ailleurs de ne pas mettre trop de distance entre nous. L'image que j'évoquais, c'était celle d'une escalade où mon partenaire un peu plus agile et robuste que moi m'aiderait à me hisser de palier en palier. J'étais plus âpre que généreuse, je désirais recevoir et non donner. S'il m'avait fallu remorquer un traînard, je me serais consumé d'impatience. En ce cas, le célibat était bien préférable au mariage. Ni inférieur, ni différent, ni outrageusement supérieur, l'homme prédestiné me garantissait mon existence sans lui ôter sa souveraineté. La vie commune devait favoriser et non contrecarrer mon entreprise fondamentale, m'approprier le monde.
Vous avez déjà dit que le principe du mariage était obscène. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
Je veux dire que si deux êtres restent rivés l'un à l'autre par des institutions et par des liens purement extérieurs, alors qu'il n'y a plus rien dans leur cœur et dans leur chair qui les rattache vraiment l'un à l'autre, on arrive à quelque chose qui me semble aussi répugnant que peut-être la prostitution.
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant partout les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Restez pucelle chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat. Élevez des singes, élevez des chats. Vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile ou le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez radieuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner? Du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia. Olympia, changez d'amant quatre fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer des beaux petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. La belle vie que ça sera, ne vous mariez pas. Surtout, ne vous mariez pas.
Ça peut pas faire de mal.
Hein, les filles.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Père, mon petit papa chéri. Brunswick m'autorise à passer l'agrégation et le diplôme d'enseignement la même année. J'ai gagné, je vais faire en un an ce que tous les autres font en deux.
Viens que je t'embrasse.
Évoquons à présent la figure du père, si chère à Simone de Beauvoir. Longtemps, l'aîné fut l'enfant chéri de Monsieur de Beauvoir, qui, fier de ses succès scolaires, déclarait « Simone a un cerveau d'homme. Simone est un homme. » Mais à l'adolescence, il lui reproche son physique ingrat et se met à lui préférer sa sœur cadette.
Est-ce que vous êtes un peu fier de votre fille ?
Je suis rassuré. De toute façon, on n'a aucune chance de te caser, alors...
Mais pourquoi blesser Simone ? À quoi bon, Georges ?
Qui voudrait être ta fille ? Elle est laide.
Malgré leurs différends, Simone reconnaît que son père, contraint par la mauvaise fortune, lui a transmis le principe qui fondera son œuvre à venir, l'idéal d'indépendance des femmes. Voici le portrait de cet homme colérique, conservateur, comédien à ses heures, qui fait peser sur Simone le poids de ses échecs. Dans mon milieu, on trouvait alors incongru qu'une jeune fille fît des études poussées. Prendre un métier, c'était déchoir. Il va de soi que mon père était vigoureusement anti-féministe. Il se délectait, je l'ai dit, des romans de Colette Hyvert. Il estimait que la place de la femme est au foyer et dans les salons. Certes, il admirait le style de Colette, mais comme il appréciait la beauté des grandes courtisanes, à distance. Il ne les aurait pas reçues sous son toit. Avant la guerre, l'avenir lui souriait. Il comptait faire une carrière prospère, des spéculations heureuses, et nous marier, ma sœur et moi, dans le beau monde. Pour y briller, il jugeait qu'une femme devait avoir non seulement de la beauté, de l'élégance, mais encore de la conversation, de la lecture. Aussi se réjouit-il de mes premiers succès d'écolière. Mais s'il aimait les femmes d'esprit, mon père n'avait aucun goût pour les bas bleus. Quand il déclara « Vous, mes petites, vous ne vous marierez pas, il faudra travailler », il y avait de l'amertume dans sa voix. J'ai cru que c'était nous qu'il plaignait, mais non. Dans notre laborieux avenir, il lisait sa propre déchéance. Il récriminait contre l'injuste destin qui le condamnait à avoir pour fille des déclassés. La guerre avait passé et l'avait ruiné, balayant ses rêves, ses mythes, ses justifications, ses espoirs. Je me trompais quand je le croyais résigné. Il ne cessa pas de protester contre sa nouvelle condition. Presque partout, il affectait une allure à la fois ahurie et provocante, qui signifiait que sa vraie place n'était pas là. Dans les tranchées, il avait tout naturellement parlé le même langage que ses camarades. Il nous raconta avec amusement que l'un d'eux avait déclaré « Quand Beauvoir dit « merde », ça devient un mot distingué ». Pour se prouver sa distinction, il se mit à dire « merde » de plus en plus souvent. Il ne fréquentait plus guère à présent que des gens qu'il jugeait communs. Il renchérit sur leur vulgarité. À la maison, il gémissait sur la dureté des temps. Chaque fois que ma mère lui demandait de l'argent pour le ménage, il faisait un éclat. Il se plaignait particulièrement des sacrifices que lui coûtaient ses filles. S'il me reprocha avec tant d'impatience les disgrâces de mon âge ingrat, c'est qu'il avait déjà contre moi de la rancune. Voilà que je n'étais plus seulement un fardeau, j'allais devenir la vivante incarnation de son échec. Les filles de ses amis, de son frère, de sa sœur seraient des dames, moi pas. Certes, quand je passais mes bachots, il se réjouit de mes succès, il les flattait et lui évitait bien des soucis. Je n'aurais pas de peine à gagner ma vie. Je ne compris pas qu'il se mêlait à sa satisfaction un âpre dépit. Quel dommage que Simone ne soit pas un garçon, elle aurait fait polytechnique. J'avais souvent entendu mes parents exhaler ce regret. Un polytechnicien, à leurs yeux, c'était quelqu'un. Mais mon sexe leur interdisait de si hautes ambitions. Et mon père me destina prudemment à l'administration. Cependant, il détestait les fonctionnaires, ces budgétivores. J'aggravais mon cas en optant pour le professorat. Il nourrissait contre les professeurs de sérieux griefs. Ils appartenaient à la dangereuse secte qui avait soutenu Dreyfus. Les intellectuels, les droits de l'homme, le pacifisme, l'internationalisme, le socialisme. Si je partageais leurs conditions, n'allais-je pas adopter leurs idées? Mon père fut perspicace. Tout de suite, je lui devins suspecte. Demain, j'allais trahir ma classe. Et déjà, je reniais mon sexe. Cela non plus, mon père ne s'y résignait pas. Pendant ces années de formation, un autre homme compte dans la vie de Simone de Beauvoir, son cousin Jacques. De 6 mois son aîné, orphelin de père, il fut son premier amour d'enfance et son maître à penser pendant l'adolescence. C'est lui qui l'initia à la littérature en lui faisant découvrir Le Grand Moune d'Alain Fournier. À l'âge de 17 ans, leur relation s'intensifie sous l'œil inquiet de la famille. Son indépendance, sa vie de bohème, son aura de séducteur fascinent la jeune fille. Mais Jacques est un papillon de nuit qui se brûlera les ailes. C'était en général vers la fin de l'après-midi que je sonnais à la porte de l'immeuble. Je montais jusqu'à l'appartement. Jacques m'accueillait avec un sourire empressé. « Je te dérange pas ?»«
Tu ne me déranges jamais. »«
Comment ça va ?»«
Ça va toujours quand je te vois. »
Sa gentillesse me réchauffait le cœur. Il m'emmenait dans la longue galerie moyenâgeuse où il avait installé sa table de travail. Il n'y faisait jamais très clair, un vitrail arrêtait la lumière. J'aimais cette pénombre, les bahuts et les coffres en bois massif. Je m'asseyais sur un sofa couvert de velours cramoisi. Il marchait de long en large, une cigarette au coin des lèvres, clignant un peu les yeux pour chercher sa pensée dans les volutes de fumée. Je lui rendais les livres que je lui avais empruntés, il m'en prêtait d'autres. Il me lisait du Mallarmé, du Laforgue, du Francis Jamm, du Max Jacob. « Tu vas l'initier à la littérature moderne ?» lui avait demandé mon père d'un ton mi-ironique, mi-pincé. « Mais rien ne pourrait me faire plus de plaisir », avait dit Jacques. Il prenait cette tâche à cœur. « Tout de même, je t'ai fait connaître de belles choses », me disait-il parfois avec fierté. Il me guidait d'ailleurs avec beaucoup de discrétion. Quand il m'envoyait au studio des Ursulines voir un film d'avant-garde ou à l'atelier, le dernier spectacle de Dulin, il me disait seulement « faut pas manquer ça ». Parfois, il me décrivait minutieusement un détail. Une lumière jaune au coin d'une toile. Sur l'écran, une main qui s'ouvre. Religieuse, amusée, sa voix suggérait l'infini. Il me donna des indications précieuses sur la manière dont il fallait regarder un tableau de Picasso. Il m'ébahissait parce qu'il pouvait identifier un Braque ou un Matisse sans voir la signature. Ça me semblait de la sorcellerie. J'étais étourdi par toutes ces nouveautés qu'il me révélait, et j'avais un peu l'impression qu'il en était lui-même l'auteur. Je lui attribuais plus ou moins l'Orphée de Cocteau, les Arlequins de Picasso, Entr'acte de René Clair. Que faisait-il en réalité? Quels étaient ses projets, ses soucis?
Il ne travaillait pas beaucoup. Il aimait foncer en auto, la nuit, à travers Paris. Il fréquentait un peu les brasseries du Quartier Latin, les bars de Montparnasse. Il me peignait les bars comme des endroits fabuleux où toujours il arrive quelque chose. Mais il n'était pas très content de son existence. Arpentant la galerie, fourrageant ses cheveux d'un beau châtain doré, il me confia en souriant « C'est effrayant ce que je suis compliqué. Je me perds dans mes propres complications. » Une fois, il me dit sans aucune gaieté « Vois-tu, ce qu'il me faudrait, c'est croire en quelque chose. Est-ce que cela ne suffit pas de vivre ?» lui demandai-je. Moi, je croyais à la vie. Jacques m'avait tant donné. Je pensais moins aux livres, aux tableaux, aux films qu'à cette lumière caressante dans ses yeux quand je lui parlais de moi. J'eus besoin soudain de le remercier et je lui écrivis d'un trait une petite lettre. Mais ma plume resta en suspens au-dessus de l'enveloppe. Jacques appréciait au plus haut point la pudeur. Avec un de ses sourires au mystérieux sous-entendu, il m'avait cité dans la version qu'en a donné Cocteau le mot de Goethe. « Je t'aime, est-ce que ça te regarde ?» À 20 ans, tout semble sourire à la jeune étudiante. Après avoir brillamment obtenu ses certificats du baccalauréat, Simone de Beauvoir est admise en philosophie générale à la Sorbonne. Elle y côtoie la philosophe Simone Veil et se lie d'amitié avec un certain Jean Pradel, qui n'est autre que le penseur Maurice Merleau-Ponty, qui tombera amoureux de Zaza. Parallèlement, Simone commence à enseigner dans un lycée de Neuilly.
Qui parmi vous a lu Gide ?
Maman me l'a interdit, mademoiselle.
Nous allons étudier les nourritures terrestres. Le héros est pédéraste. Silence.
Si la jeune femme accomplit son indépendance, elle souffre d'un grand vide affectif. Elle éprouve de tout son être cette liberté négative, cette liberté dont on ne sait que faire, qui deviendra, sous la plume de Sartre, la marque de l'existentialisme. Je saluais mon 20e anniversaire par un couplet mélancolique. Rien n'est triste, tout est prévu. La démence précoce serait une solution si j'essayais de vivre. Mais j'ai été élevé au court désir. J'aurais bien aimé goûter moi aussi à cette existence hasardeuse et inutile dont Jacques et les jeunes romanciers me vantaient les attraits. Mais comment introduire de l'imprévu dans mes journées ? Nous réussissions, ma sœur et moi, à dérober de loin en loin une soirée à la vigilance maternelle. Avec l'argent que je gagnais à Neuilly, nous allions au studio des Champs-Élysées voir une pièce d'avant-garde ou bien du promenoir du Casino de Paris, nous écoutions Maurice Chevalier. Nous marchions dans les rues en parlant de notre vie et de la vie, invisible mais partout présente. L'aventure nous frôlait. Ces phrases que nous mettaient en gaieté, mais nous ne pouvions pas souvent les répéter. La monotonie quotidienne continuait à m'accabler. Oh, réveil morne, vie sans désir et sans amour, tout épuisé déjà et si vite, l'affreux ennui. Ça ne peut pas durer. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je peux ? Rien et rien. Mon livre, vanité. La philo, j'en suis saturé. L'amour, trop fatigué. Et pourtant, j'ai 20 ans. Je veux vivre. Ça ne pouvait pas durer, ça ne durerait pas. Je revenais à mon livre, à la philosophie, à l'amour. Et puis ça recommençait. Toujours ce conflit qui me semble sans issue. Une ardente conscience de mes forces, de ma supériorité sur eux tous, de ce que je pourrais faire, et le sentiment de la totale inutilité de ces choses. Non, ça ne peut pas durer ainsi. Et ça durait. Et peut-être après tout que cela durerait toujours. Comme un pendule en folie, j'oscillais frénétiquement de l'apathie à des joies égarées. J'escaladais la nuit les escaliers du Sacré-Cœur. Je regardais scintiller dans les déserts de l'espace Paris, vaine oasis. Je pleurais parce que c'était si beau et parce que c'était inutile. Je redescendais les petites rues de la butte en riant à toutes les lumières. J'échouais dans la sécheresse, je rebondissais dans la paix, je m'épuisais. Il y avait longtemps que la solitude m'avait précipité dans l'orgueil. La tête me tourna tout à fait. Un professeur me rendit ma dissertation avec de grands éloges. Il me reçut à la sortie du cours et sa voix mourante exhala l'espoir qu'il y eut là l'amorce d'une œuvre de poids. Je m'enflammais. Je suis sûr de pouvoir monter plus haut que tous. Orgueil, si je n'ai pas de génie, oui. Mais si j'en ai, comme je le crois parfois, comme j'en suis sûr parfois, ce n'est que de la lucidité, écrivis-je paisiblement dans mon journal intime. Le lendemain, je me promenais dans les Tuileries. Un soleil orange roulait dans le ciel bleu pâle et incendiait les vitres du Louvre. Je me rappelais de vieux crépuscules et soudain, je me sentis foudroyé par cette exigence que depuis si longtemps je réclamais à corps et à cri. Je devais faire mon œuvre.
Ce projet n'avait rien de neuf. Cependant, comme j'avais envie qu'il m'arrive des choses et que jamais il ne se passait rien, je fis de mon émotion un événement. Encore une fois, je prononçai face au ciel et à la terre des vœux solennels. Rien, jamais, en aucun cas, ne m'empêcherait d'écrire mon livre. Le fait est que je n'en remis plus en question cette décision. Je me promis aussi de vouloir désormais la joie et de l'obtenir. L'année suivante, Simone de Beauvoir fait une rencontre décisive. Nous sommes en 1928, année de préparation à l'agrégation. À la Bibliothèque nationale où elle révise chaque jour, l'étudiante fait la connaissance d'un condisciple, André Herbeau, de son vrai nom René Maheu, qui deviendra haut fonctionnaire. Voici le portrait plein de tendresse de cet homme séduisant qui vient contredire les principes de la jeune Simone. Oui, on peut aimer quelqu'un de différent. Je fus surprise par la violence de cet engouement. Je notais dans mon journal intime « Rencontre avec André Herbeau ou avec moi-même ». Pourquoi suis-je si bouleversée, comme si quelque chose m'était vraiment arrivé ? Quelque chose m'était arrivé, qui indirectement décida de toute ma vie. Mais cela, je ne devais l'apprendre qu'un peu plus tard. Herbeau était fils d'un instituteur des environs de Toulouse et il était monté à Paris pour préparer Normal. Il avait connu en Hippocane Sartre et Nizan et il me parla beaucoup d'eux. Il admirait Nizan pour sa distinction désinvolte, mais il était surtout lié avec Sartre, qu'il disait prodigieusement intéressant. Nos autres condisciples, il les méprisait en bloc et en détail. Ils ne ressemblaient pas à mes autres amis. Ceux-ci avaient des visages si raisonnables qu'ils en devenaient immatériels. Impossible de réduire le visage d'Herbeau à un symbole. La mâchoire avançante, le grand sourire humide, les iris bleus cernés d'une cornée lustrée, la chair, les os, la peau s'imposaient et se suffisaient. Herbeau avait un corps. Parmi les arbres verdoyants, il me disait combien il détestait la mort et que jamais il ne consentirait à la maladie ni à la vieillesse. Comme il sentait fièrement dans ses veines la fraîcheur de son sang. Je le regardais arpenter le jardin avec une grâce un peu dégingandée. Je regardais ses oreilles, transparentes au soleil comme du sucre rose, et je savais que j'avais à côté de moi non pas un ange, mais un fils des hommes. J'étais fatigué de l'angélisme et je me réjouissais qu'il me traitât en créature terrestre. Car sa sympathie ne s'adressait pas à mon âme, elle ne supputait pas mes mérites. Spontanée, gratuite, elle m'adoptait tout entière. Les autres me parlaient avec déférence, ou tout au moins avec gravité, à distance. Herbeau me riait au visage. Il posait ses mains sur mon bras. Il me faisait sur ma personne un tas de petites réflexions, aimables ou moqueuses, toujours inattendues. Philosophiquement, il ne m'éblouissait pas. Je notais avec un peu d'incohérence, j'admire sa faculté d'avoir sur toute chose des théories à lui, peut-être parce qu'il ne sait pas beaucoup de philosophie. Il me plaît énormément. Je lui donnais à lire ma dissertation sur la personnalité dont j'étais fier à l'excès. Il fit la moue. Il y décelait les relents d'un catholicisme et d'un romantisme dont il m'exhorta à me nettoyer au plus vite. J'acquiesçais avec emportement. Voilà pourquoi en rencontrant Herbeau, j'eus l'impression de me trouver moi-même. Il m'indiquait mon avenir. Ce n'était ni un bien-pensant, ni un rat de bibliothèque, ni un pilier de bar. Il prouvait par son exemple qu'on peut se bâtir en dehors des vieux cadres une vie orgueilleuse, joyeuse et réfléchie, telle exactement que je la souhaitais.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit jouet. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord, j'ai les cheveux trop longs. Mes ongles, c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille, c'est pas pour écouter. Pour les connaisseurs, c'est un fruit. Je suis une confiture. Je suis une pâture. Je suis un liseron, je suis un édredon. Je suis une poupée et je suis un gibier. Je suis la femme. j'ai un nez, si j'ai deux pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas les orienter. Si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation. On pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir, je suis un reposoir, un monstre familier, une puce dressée. Poète, prends ta lyre, tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.
Après délibération, le jury de l'agrégation de philosophie que j'ai l'honneur de présider déclare définitivement admis les candidats suivants. Premier, Monsieur Sartre, Jean-Paul. Deuxième, Mademoiselle Bertrand de Beauvoir, Simone. Je vous remercie de votre attention et toutes nos félicitations aux brillants lauréats.
Bientôt, Simone de Beauvoir devient le castor. Au cours des 3 semaines qui les séparent du concours, la jeune femme est admise à rejoindre le clan des Eugènes, formé par Herbaud, Nizan et Sartre. Le terme Eugène désignant un individu qui veut se créer une vie originale. Contrairement à la légende, c'est André Herbaud qui attribue à Simone son surnom. Le mot Beauvoir se rapprochant de l'anglais beaver, le castor. Hélas, quelques temps plus tard, Herbaud échoue à l'écrit de l'agrégation. Il rentre en province et y rejoint sa femme. Sartre et Beauvoir se rapprochent l'un de l'autre. Voici les prémices d'une longue histoire d'amour qui hante encore les cafés de Saint-Germain-des-Prés.
En quoi il était tellement différent des autres?
Je pense qu'il était le plus sale, le plus mal habillé. Je crois aussi peut-être le plus laid. Mais je me rappelle l'avoir vu une fois avec un grand chapeau dans les couloirs de la Sorbonne, faisant la cour à je ne sais pas quel étudiant, parce qu'il était toujours en train de faire la cour à tel ou tel jeune philosophe. Ça, c'était mademoiselle, je ne sais plus comment elle s'appelait. Enfin, et il avait un grand chapeau, il était en train de faire du charme et je l'avais ricané.
La première fois que je l'avais aperçu à la Sorbonne, il portait un chapeau et causait d'un air animé avec une grande bringue d'abrégative que je trouvais très vilaine. Elle lui avait vite déplu. Quand Herbaud lui avait parlé de moi, il avait aussitôt voulu faire ma connaissance. Et maintenant, il était très content de pouvoir m'accaparer. Moi, il me semblait à présent que tout le temps que je ne passais pas avec lui était du temps perdu. Pendant les 15 jours que dura l'oral du concours, nous ne quittâmes guère que pour dormir. Nous allions à la Sorbonne passer nos épreuves et écouter les leçons de nos camarades. Nous sortions avec le couple Nizan. Nous prenions des verres au Balzar avec Aaron qui faisait son service militaire, avec Politzer qui était à présent inscrit au Parti communiste. Le plus souvent, nous nous promenions tous les deux seuls. Nous parlions d'un tas de choses, mais particulièrement d'un sujet qui m'intéressait entre tous, moi-même. Quand il prétendait m'expliquer, les autres m'annexaient à leur monde. Ils m'irritaient. Sartre, au contraire, essayait de me situer dans mon propre système. Il me comprenait à la lumière de mes valeurs, de mes projets. Je devais préserver ce qu'il y avait de plus estimable en moi, mon goût de la liberté, mon amour de la vie, ma curiosité, ma volonté d'écrire. Non seulement il m'encourageait dans cette entreprise, mais il proposait de m'aider. Plus âgé que moi de 2 ans, ayant pris beaucoup plus tôt un meilleur départ, il en savait plus long sur tout. Mais la véritable supériorité qu'il se reconnaissait et qui me sautait aux yeux, c'était la passion tranquille et forcenée qui le jetait vers ses livres à venir. Autrefois, je méprisais les enfants qui mettaient moins d'ardeur que moi à jouer au croquet ou à étudier. Voilà que je rencontrais quelqu'un aux yeux de qui mes frénésies paraissaient timides. Et en effet, si je me comparais à lui, quelle tiédeur dans mes fièvres! Je m'étais cru exceptionnel parce que je ne concevais pas de vivre sans écrire. Il ne vivait que pour écrire. Sartre répondait exactement aux vœux de mes 15 ans. Il était le double en qui je retrouvais, porté à l'incandescence, toutes mes manies. Avec lui, je pourrais toujours tout partager. Quand je le quittais au début d'août, je savais que plus jamais il ne sortirait de ma vie.
Vraiment, j'ai réussi ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves. Simplement, il y a un moment où quand on se retourne réflexivement sur sa vie, on s'aperçoit qu'une vie même réussie, c'est sur un certain plan un échec, parce que ça n'est pas quelque chose, une vie, qu'on puisse prendre dans ses mains, posséder, contempler, qu'on n'a pas une vie finalement.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Alain Joubert. Elle a été préparée par Estelle Gap et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.